travaillé pour rien. Ça devient démoralisant.
Oui, c'est sûr. Et d'autant plus que, bon, si il n'y a plus d'agriculteurs, on ne sera pas les seuls à disparaître. Ça va engendrer beaucoup de personnes derrière nous. Ça, c'est quand même un gros problème. Et nous, on demande juste une chose, à pouvoir vivre de notre travail.
Pourquoi, à votre avis, on ne vous écoute pas?
Je sais pas. On a écouté les banques, on n'écoute pas les agriculteurs. On ne doit pas être assez important.
L'avenir, j'en ai pas, moi, là. Je vais au jour le jour.
Venez visiter votre petit paradis.
Bien sûr, bien sûr.
Alors, vous avez combien d'hectares?
80.
Et c'est 80 hectares dédiés aux vaches, en fait?
Tout à fait.
Et alors, 80 hectares, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est jusqu'où chez vous?
Ah bah, de toute façon, c'est dispersé.
C'est plusieurs parcelles.
Oui, oui, oui.
Et donc là, vous allez m'emmener voir quoi?
Le bâtiment, là, les bêtes.
Parce que vous, là, vous vivez dans un mobil-home.
Ben, oui, pour le moment, parce qu'on est arrivé là, donc on n'a pas pu trouver de location de maison sur le village. Au début, on a loué sur un autre village à 4 km et c'était trop contraint. Donc après, on a mis ça en attendant que... Mais ce qui risque de durer...
Et puis il y a la toute petite cabane de votre fils. Donc là, effectivement, on longe un bâtiment.
Oui, et on va arriver.
Et donc, c'est là que logent 50 bêtes.
Oui, un petit peu plus de 50, hein, parce qu'il y a les. Donc, là, y a
ça
les...
fait deux bâtiments.
Oui, ça fait comme deux bâtiments, ouais.
Donc,
il y a les vaches plus des génisses, quoi, des jeunes.
Bernadette et Patrice sont producteurs de lait dans la Creuse. 80 hectares, 50 vaches laitières, un mobil-home pour maison, un bâtiment pour les bêtes, un vieux tracteur. Levés aux aurores, couchés à pas d'heure, et ça, tous les jours de la semaine, et pas de quoi se payer un salaire. La tête dans les dettes, dans les factures et les lettres d'huissier. Une vie à la merci du prix du lait, des fluctuations du marché mondial. Une vie à se faire écraser par les tarifs des coopératives et par ceux des industriels et les bêtes qu'il faut bien continuer à nourrir, à traire. Le 28 avril 2008, Bernadette et Patrice étaient en cessation de paiement. Ils cumulaient 30 000 euros de dettes. Ils ont décidé de faire appel en urgence à l'association Solidarité Paysan. C'est une association nationale de défense et d'aide des agriculteurs en difficulté. Pour éviter la liquidation, Gilles Roy, qui est bénévole de l'association et ancien paysan lui-même, leur a proposé d'élaborer un plan de redressement. C'était la seule façon pour Bernadette et Patrice de préserver leur exploitation. Ils se sont engagés à rembourser leurs dettes pendant 14 ans. Bernadette et Patrice ne sont pas un cas isolé. En France, un agriculteur sur deux gagne moins que le SMIG. C'est un reportage de Delphine Gourlet.
agriculteur, c'est un métier qui vous est venu enfant.
Oui.
Ouais.
J'ai toujours aimé ça.
Parce que votre famille était dans le métier ?
Un peu, mais pas complètement. Mon père travaillait à l'extérieur. Mais bon, il y avait une ferme quand même.
Ça, vous habitiez dans une ferme,
oui,
à la campagne, et votre
voilà,
père travaillait ailleurs.
Il y avait une petite ferme à côté, quoi.
Mais vos parents n'étaient pas agriculteurs, par exemple.
Ils ont travaillé le terrain quand même, avec quelques bêtes. C'était une petite ferme.
Et ils vivaient de quoi, du coup ?
Ben, mon père était ouvrier, donc il avait un salaire à côté.
Quand vous étiez enfant, vous participiez
Ah oui, tout le temps.
Et qu'est-ce que vous aimiez faire, du coup ?
Mais j'aimais bien traire. Sortir les vaches, faire les foins.
Vous étiez attaché aux animaux, par exemple, à la terre ?
Beaucoup aux animaux.
Donc vous avez décidé très tôt que ça serait votre vie, en fait ?
Oui, je pense, parce que ça a toujours été ça.
D'accord. Et alors vous, Bernadette, est-ce que ça vient de l'enfance aussi, cette envie du métier ?
Oui, plus ou moins, oui. Mes parents étaient agriculteurs aussi. Et puis, bon, après, bon, moi, je me suis mariée avec un agriculteur. Et j'ai toujours fait ça. J'ai toujours aimé ça, quoi.
Qu'est-ce qui vous plaisait ? Qu'est-ce qu'il y avait de gai dans la vie d'agriculteur, par exemple ?
D'être dehors. Dehors, et puis une certaine liberté, quand même. Bon, la première année qu'on est arrivé, donc on a déjà eu la sécheresse. Donc, ça a déjà commencé à engendrer des difficultés. Et puis, bon, et on a racheté des animaux. Le temps d'adaptation des animaux à nous, ça génère toujours des difficultés, quand même. Donc, tout ça, ça a commencé un petit peu...
On a eu des problèmes sur les bêtes. Et c'était rien. Donc, les vaches faisaient des méningites.
Donc ça, c'était en 2005, en 2006
Oui, 2005-2006, l'hiver, quoi, 2005-2006.
Alors, quand on est agriculteur et qu'on voit arriver ces difficultés-là,
on se raccroche ce qu'on
c'est
peut.
C'est vrai que 2005, il y avait très peu de bêtes. Donc, on s'est dit, en 2006, il y aura plus de bêtes, ça ira mieux. Et puis, bon, ça peut être mieux.
2006, il y a eu une autre crise du lait aussi, en 2006, où les prix se sont effondrés du lait. Donc, ça nous a encore un peu plus enfoncés.
Et à partir de là, quel rapport vous avez avec vos banquiers ? Ça se passe encore bien ?
Bon, ça commence à être difficile. Hein,
mais bon, problème, comme ils servaient les premiers, ça se passait pas trop mal.
On n'a jamais été redevable par rapport à la banque. On a toujours payé nos prêts, puisque de toute façon, ils étaient payés, puisque notre paye de lait arrivait sur le compte et la banque se servait les premiers. Donc, ils étaient sûrs d'être payés. Le plus long, c'est que ça allait pas, c'était avec les fournisseurs, quoi. On avait de plus en plus de retard au niveau des fournisseurs.
Alors, du coup, vous arriviez à dégager combien pour vous, pour vivre ?
Zéro.
Zéro.
On s'est jamais pris de salaire.
C'est-à-dire que vous travaillez pour rembourser la banque ?
Eh bien, ils payaient les fournisseurs et voilà. Enfin, les charges qu'il y a sur l'exploitation.
Comment vous vivez à ce
au minimum. Au minimum.
Oui, et puis bon, après, suite à nos difficultés, on a bien vu au niveau avec la MSA, le service social, hein, pour qu'ils puissent nous apporter une aide, hein, parce que sinon, on n'aurait pas mangé. Hein. Ouais. On a quand même un petit garçon, quoi. Et à l'époque, on avait deux enfants en charge, on avait ma dernière fille aussi, quoi.
Mais donc, c'est-à-dire que depuis 2005, depuis le début de l'exploitation, vous n'avez pas dégagé, en fait, de salaire.
Tout le temps,
non.
Tout le temps. Okay. Ça fait mal.
Mal, ça veut dire que vous êtes dans l'angoisse, déjà ?
Ah oui. Moi, je suis tout le temps très stressé.
Et du coup, est-ce que dans cette situation-là, vous avez l'impression d'avoir beaucoup d'écoute ou d'interlocuteurs qui peuvent vous venir en aide ou vous éclairer ? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a de l'écoute quelque part ou pas ?
Qu'il y a de l'écoute, oui. Mais on n'aura pas aidé, je ne sais pas, financièrement ou... C'est bon, on a eu la mutualité qui nous a bien donné un coup de pouce.
Bon, et puis après, avec Solidarité Paysan, on a bien trouvé notre écoute aussi.
Donc Solidarité Paysan, l'association présentée par Gilles Roy, ici présent, qui vous accompagne au niveau des plans de redressement, etc.
C'est un peu la spécificité, je dirais, de Solidarité Paysanne, c'est qu'on a une réaction rapide. C'est-à-dire, quand on est appelé par les gens, on n'attend pas deux mois avant de venir, quoi. Si on peut, on vient dans la semaine.
Oui, ça s'est passé très vite.
Hein. Et puis bon, vu la situation de Patrice, il fallait faire vite aussi, parce qu'effectivement, ils étaient plutôt talonnés par les fournisseurs et par les huissiers. Donc, quand c'est comme ça, il faut agir vite pour essayer de bloquer toutes les poursuites, quoi.
Et alors, tous les jours, vous continuez à vous lever pour aller travailler, en fait.
Oui. Oui, et puis par le travail, l'occupation fait que quand on est occupé, qu'il faut qu'on pense à nos animaux, aide beaucoup aussi. Hein. Le travail aide beaucoup. Parce que bon, ben, nos animaux, il faut qu'ils mangent, il faut qu'on leur apporte les soins, il faut qu'on les traite. Donc, voilà, tant qu'on fait ça, on pense pas trop à autre chose, quoi.
C'est-à-dire que tous les jours, vous allez travailler pour perdre de l'argent?
Oui, tous les jours. Tous les jours. Depuis le mois d'avril, on a perdu 2000 euros par mois. On a des animaux, c'est pas des robinets, on peut pas leur dire vous arrêtez de produire. C'est bien, on est bien obligé de les traire, de les nourrir. On n'a pas d'autre choix que de continuer. Mais jusqu'à quand, on sait pas.
Quand Bernadette et Patrice ont fait appel à l'association Solidarité Paysan, ils étaient en cessation de paiement. Solidarité Paysan les a aidés à élaborer un plan de redressement. Dans 85% des cas, quand l'association intervient, l'activité est préservée. Sinon, c'est la liquidation. C'est Gilles Roy qui les a aidés à constituer leur dossier et qui les a aidés dans leur démarche administrative. C'est lui aussi qui les a accompagnés au tribunal. Dans le Limousin, ils sont une quinzaine de bénévoles comme Gilles Roy à répondre aux appels de détresse des agriculteurs. L'année dernière, par exemple, 34 exploitants ont contacté Solidarité Paysan dans la Creuse et 17 d'entre eux, aujourd'hui, sont en redressement judiciaire. Le plan de redressement de Bernadette et Patrice, lui, court sur 14 ans. Chaque mois, ils doivent rembourser une somme allant de 1000 à 1400 euros, sauf au mois de décembre, le mois des primes, où là, ils doivent rembourser 14 000 euros.
Maintenant, quel regard vous portez sur l'avenir? Maintenant que le plan de redressement a été mis en place, qu'il avance
Non, là, je sais pas quoi dire. L'avenir, j'en ai pas, moi. Là.
C'est vrai?
Non. Je vis au jour le jour. Mais de toute façon, on vit au jour le jour parce qu'on ne sait pas si justement on va arriver à payer le plan. Et...
Votre plan, il est sur 14 ans, c'est ça?
Donc on ne peut pas sortir de projet de dire que je ferai ça dans 2 ans, je ferai ça dans 1 an. Moi, pour moi, je peux pas.
C'est un moment qui est dur à passer. Parce que on réagit souvent qu'après, quoi. Bon, après, une fois qu'on a... Ça nous a pris un petit peu de temps pour... analyser tout ça pour remettre. Bon, après, on s'est dit, ça nous a quand même donné un second souffle, quoi. Parce que ça nous a permis pendant une année de ne pas, de ne pas payer ses fournisseurs à qui on devait, donc de pouvoir refaire un petit peu de trésorerie, quoi.
Et au moment de la cessation de paiement, c'est-à-dire vous avez l'impression que votre univers s'écroule, c'est ça un petit peu, que ça y est, c'est définitif.
Oui. Ah oui, c'est dur, hein. C'est une période qui est très très dure. Hein. En plus, il y a beaucoup de démarches à faire, c'est lourd quand même. Et on s'attend pas à tout ça, quoi, je pense. Puis, il y a des fournisseurs, il y en a qui vous menacent au téléphone, vous avez recevé des lettres recommandées, ils n'ont pas le droit normalement, mais... ils le font quand même, quoi. Donc, bon, même si on le sait, c'est quand même dur, quoi. On est harcelé quelque part. Hein.
C'est-à-dire qu'en fait, vous vivez avec des dettes dans la tête en permanence.
Ah oui, mais c'est tout, hein. Les factures qui arrivent tous les jours.
Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on a envie de dire, bon, tant pis, je les ouvre plus, là, ça suffit, là.
Non, parce qu'on n'a pas le choix.
Ouais.
On n'a pas le choix.
Il n'y a eu aucun moment où vous vous dites, bon, on arrête tout, on termine tout.
Ras-le-bol.
Oui, on baisse les bras, mais après il faut se raccrocher. On ne peut pas, on n'a pas le droit. On a un enfant, on n'a pas le droit face à lui. Il faut tenir, quoi. De toute façon, après, on n'a pas tellement le choix que de continuer. Parce que bon, je vois pas ce qu'on ferait d'autre, quoi. C'est le problème. On sait pas faire autre chose. C'est pas possible. C'est pas possible. Ou alors, ou c'est notre mort, ou alors, on finit mal, quoi. Je pense. Enfin, je peux pas le réaliser, quoi.
Donc là, c'est un papier de mise en demeure avec accusé de réception par rapport à la BNP, c'est ça?
Oui.
D'accord.
La BNP, c'est ça.
La BNP, ça doit être cet élève, non?
Non. Neuilly contentieux. Donc voilà, il y a une dette de 735 euros hein, qui reste due.
Oui, mais c'était par rapport à cet élève, parce que ça marche ensemble.
Ah,
oui.
Ah d'accord. Alors voilà, une mise en demeure, hein, c'est nous vous mettons en demeure de la régler dans les 8 jours. À défaut, nous demanderons au tribunal compétent de vous condamner au paiement de notre créance. Et si une assurance accompagne votre dossier, celle-ci sera résiliée pour non-paiement des primes dans les 40 jours, suivant l'envoi de la présente lettre. Mais ça, c'est une lettre gentille. Hein.
Oui,
par rapport à certaines lettres que les agriculteurs en difficulté reçoivent, celle-là, elle est vraiment gentille.
Donc là, c'est des nouvelles lettres que vous sortez, là. Qu'est-ce que c'est?
C'est des lettres du mandataire, comme quoi le mandataire n'est pas toujours très, très sympa, je vais dire, avec les paysans, puisque là, par exemple...
Le mandataire étant le représentant de tous les créanciers, en fait.
Étant le représentant de tous les créanciers, effectivement. Et donc, vous trouverez 6 juin la facture représentant le droit fixe qui vous permettra de récupérer la TVA. Et si vous n'avez pas la trésorerie nécessaire pour vous acquitter de cette somme immédiatement, procédez en fractionnement de cette somme. Toutefois, la proposition d'un plan de redressement suppose que vous ayez la capacité de faire face au remboursement prévu. Si vous n'avez pas été en mesure de verser le montant des frais de justice le jour de la présentation de votre plan de redressement, j'en conclurai que celui-ci manque du sérieux nécessaire.
Voilà. Ce qui signifie, en fait, si vous n'êtes pas capable de payer le mandataire qui représente les créanciers, ça veut dire que de toute façon, vous ne pourrez rien payer derrière. Voilà. Donc payez-moi maintenant. Ouais. Et puis après, on discutera.
Voilà.
Il faut payer avant.
Parle depuis tout à l'heure de plan de redressement judiciaire, donc c'est le plan, l'étalement du remboursement des dettes, etc. Donc l'espoir de pouvoir faire face à toutes ces créances pour remettre la machine en route. Mais on parle aussi, en cas d'impossibilité de tenir le plan de redressement, on parle de liquidation. Ce qui signifie c'est l'exploitation ferme et tout est terminé. Ce mot-là, est-ce que c'est un mot... Je vois votre tête pas tressée, c'est effrayant, quoi.
C'est la peur.
Ouais.
Ouais. Ça, je sais pas si je pourrais faire face à ça.
Mais c'est sûr que ça fait peur. De toute façon, on peut pas y penser, quoi. Je pense que ça sera trop dur, je pense. Puis ça veut dire qu'on a échoué, quoi. Donc c'est dur parce que bon, on y a mis tout notre être dedans, quoi. Notre travail, mais c'est nous en tout entier, quoi, dans l'exploitation, quoi. Donc après, ça veut dire qu'on a échoué, quoi. Ça fait mal à l'intérieur de soi, quoi, de pas arriver à s'en sortir avec tout ce qu'on fait. Bon, on ferait rien encore à la limite, d'accord, Mais quand on travaille, c'est ça le pire de tout, quoi.
Mais en même temps, vous dites, on a échoué. Mais la réalité montre que vous n'êtes pas seul à échouer. C'est aussi l'échec d'une société,
ben,
l'échec
oui,
d'une
bon,
logique.
Je crois qu'on se dit, eh ben, on n'a pas réussi à ce qu'on voulait faire. Et puis voilà, je crois que c'est ça.
Faut aussi vous dire, à mon avis, que non, c'est pas un échec. C'est pas un échec parce que ben vous avez, il y a eu des conditions qui ont fait que bon, à un moment donné vous vous êtes trouvé dans cette situation là. Mais bon, tout n'est pas de votre faute et c'est
non, pas entièrement, mais
si peut-être quand même entre nous, si le prix du lait il était à 0,38 centimes actuellement, à 38 centimes d'euros, vous ne seriez pas dans cette situation là.
Hein? Oui,
on est bien
sûr.
D'accord.
Oui, oui, tout à fait.
Alors.
Eh ben oui,
donc,
mais bon.
L'échec, il n'est pas de vous.
Oui, mais
dans ce cas-là.
Parce que si jamais on part en liquidation, un jour, il ne nous restera plus rien.
Oui, non, ça je comprends.
Plus rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse après?
D'autant que, Gilles, vous me disiez, un paysan qui se retrouve en liquidation judiciaire, derrière, au niveau des droits assédiques, des aides...
Alors, un paysan en liquidation judiciaire, donc il n'a plus son boulot, il ne peut même pas s'inscrire au chômage, sachant qu'il ne cotise pas au chômage, donc il ne peut pas. La seule chose qui lui reste quand il est mis en liquidation judiciaire et s'il n'a plus rien, c'est le RSA, actuellement. Bon, c'est bon. C'est tout. Il y a eu des cas effectivement de suicide à la suite de ça. Ça, on le sait très bien. Alors, on parle beaucoup des suicides, des 25 suicides à France Télécom, où il y a je ne sais combien de salariés. Mais enfin, il y a aussi dans les agriculteurs l'une des professions, j'écoutais l'autre jour, où on se suicide le plus. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne puisse pas s'intéresser davantage à cette profession, alors qu'effectivement, elle rencontre actuellement d'énormes difficultés. Mais bon, apparemment, ça n'intéresse pas grand monde, quoi.
Intersoir. Alain Passerelle.
C'est la quatrième fois depuis son arrivée à l'Élysée que Nicolas Sarkozy se livre à un plaidoyer en faveur de l'agriculture. Cette fois-ci, cela arrive en plein marasme et dans une crise qui est sans précédent, dit-on. Nicolas Sarkozy, c'était en milieu de journée à Poligny, dans le Jura.
La crise que traverse l'ensemble du secteur agricole est une crise absolument exceptionnelle, car toutes les filières agricoles sont aujourd'hui touchées par une baisse de revenus. Cette crise, nous devons donc l'affronter de face, sans mentir. Cette crise ne doit pas nous inciter à attendre, elle doit nous inciter à agir. Agir vite et agir fort.
Voilà pour les grands principes. Voici maintenant les décisions concrètes avec Élodie Guéguin.
Pour soutenir la trésorerie des exploitants, plusieurs leviers seront actionnés. D'abord, 1 milliard d'euros sera débloqué pour des prêts bancaires avant la fin de l'année. Le taux d'intérêt de ces prêts sera réduit, notamment pour les jeunes agriculteurs. Il s'agit là d'une réponse immédiate à la situation d'urgence, précise le chef de l'État. Seconde enveloppe allouée, 650 millions d'euros. Pour alléger les charges des agriculteurs, les plus touchés par la crise seront exonérés de cotisations sociales, de taxes sur le foncier non bâti, et dans certains cas de la TIPP, la taxe sur les produits pétroliers. Par ailleurs, le président s'engage à mettre en place de nouveaux outils de régulation face à l'instabilité des prix et à la concurrence européenne. Je veux, dit-il, refonder la politique agricole, comme nous sommes en train de refonder le capitalisme financier.
Est-ce que ça vous rassure, les déclarations de Nicolas Sarkozy pour aider l'agriculture ?
Pas du tout.
Non, pas du tout. Il y a strictement rien pour pouvoir nous aider. C'est pas possible. Mettre des prêts en place pour des gens qui sont en difficulté, il n'y a pas une banque qui va nous aider. Et un prêt de plus, c'est un prêt pour nous enterrer, pas pour nous aider. Donc après, sorti de là, il y a rien dans son plan pour pouvoir aider les gens en difficulté.
C'est-à-dire que ce que Nicolas Sarkozy propose, c'est d'aider les gens à investir et à développer leur activité. C'est ça, donc à agrandir leur activité, à investir plus. Donc, c'est-à-dire que vous n'êtes pas concerné par ça, c'est ça ?
Concerné, c'est pas... Non, c'est ce plan-là n'est pas fait pour nous aider, nous, qui sommes d'autant plus en difficulté. Et je ne suis pas sûre que ce soit bien pour aider d'autres personnes non plus, quoi. Parce que bon, faire des prêts supplémentaires, quand on en a déjà quelques-uns, c'est pas forcément la bonne solution. Hein. Donc le report des cotisations sociales n'est pas une bonne solution non plus, hein, parce qu'il faudra bien les payer un moment ou l'autre.
Toujours au turbin du soir au matin, moi j'en ai marre. Dois toujours manger de la vache enragée, moi j'en ai marre. Se dire que ma peine, je la traîne fourbu, jusqu'à ce que je crève sans rêve, sans but. N'avoir pour toilette que celle que l'on jette, moi j'en ai marre. N'avoir pour croque-nous ceux qui prennent de l'eau, moi j'en ai marre. Si c'est ça la vie, eh bien je vous le déclare. Sans être socialo, c'est pas rigolo, et moi j'en ai marre. Toujours au turbin du soir au matin, moi j'en ai marre. Vivre nuit et jour sans un peu d'amour, moi j'en ai marre. En fait de tendresse, de caresse, je n'ai rien que celle que si bonne me donne mon chien. Recevoir des beignes sans que personne me plaigne, moi j'en ai marre. Voir quand on m'approche que les gens me trouvent moche, moi j'en ai marre. Si c'est ça la vie, eh bien je vous le déclare. Sans être socialo, c'est pas rigolo, et moi j'en ai marre.
Bernadette et Patrice sont producteurs de lait dans la Creuse. Ils ont 80 hectares, 50 vaches et 30 000 euros de dettes. Ils ont aussi un bâtiment pour les bêtes, un peu plus loin, un espace où sont stockés les outils, le minimum, un vieux tracteur qui tombe tout le temps en panne. Plus haut, sur leur terre, il y a leur mobilhome, à côté, celui de leur fille. Et à côté encore, la cabane en plastique trop petite pour lui, de Tanguy. Leur fils. Tanguy a 7 ans. Il vit dans le mobilhome avec ses parents. Il a une toute petite chambre pour lui. Tanguy aime se balader dans les champs. Il aime aussi ses chèvres de compagnie. Mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est sa collection de mini-tracteurs qu'il range dans une grande caisse. Mais là, Tanguy est sorti du mobilhome avec un énorme seau et une paire de ciseaux presque plus grandes que lui.
C'est le bouquet, maman. Hein ? Le bouquet. J'ai renversé l'eau. Oui. Là-bas, là-haut.
T'as fait de bêtises ?
Oui.
Eh, hey, Tanguy, t'as mis ton bonnet et puis t'as mis ton manteau, t'as pris un seau et un super gros ciseau.
Oui.
Qu'est-ce que tu vas faire avec ça, Tanguy ?
Je vais ramasser du poil à gratter.
Tu vas en faire quoi après ?
Maman, je vais en faire de la confiture. Maman, tu veux bien faire de la confiture ? Là, juste en bas, là-bas. C'est là-bas.
Alors tout ça, c'est chez toi, Tanguy ?
Oui.
Mais alors ici, toi, tu peux jouer à plein de trucs ?
Oui. Après, j'ai pas de copains, là. Ah. J'en ai qu'en haut. J'ai qu'une copine en haut. Après, je vais en avoir d'autres bientôt parce que y a des jeunes qui vont faire des bébés, là.
Alors là, tu m'emmènes sur un chemin, tu vas me montrer le poil à gratter, c'est ça ?
Ouais, c'est ça, là. C'est gros rosier, là, ça.
Ah, d'accord.
Mais il n'a pas de boules rouges là-dessus.
Et c'est avec les boules rouges qu'on fait la confiture ?
Oui.
Et ça a quel goût ?
J'ai jamais goûté.
Ah, d'accord. Et toi, t'aimes bien où t'habites ?
Oui. Sauf qu'après, il faudra changer de maison.
Pourquoi ?
J'aimerais bien avoir une grande maison. C'est la petite.
Ah. Et t'aimes bien les vaches ?
Oui. Bah après, j'aime mieux les tracteurs. Bah, je le conduis des fois aussi. Avec mon papa à côté.
T'as quel âge, toi ?
7 ans.
Est-ce que quand tu seras grand, tu veux faire le même métier que ton papa ?
Non, j'ai pas envie.
Pourquoi t'as pas envie ?
Est-ce que ça ne va pas me rapporter plus d'argent? Bah ouais. Je ne veux pas non plus devenir président, parce que je n'ai pas envie de dire des conneries. J'ai qu'un truc, les chèvres, mais après, s'il y a d'autres trucs qui me plaisent.
Bah toi, t'aimes les chèvres?
Oui, comme ma sœur. Elle est en apprentissage. Je sais pas où, elle est loin en attendant.
Ta grande sœur?
Oui.
Et toi, tu trouves que tes parents, ils travaillent beaucoup?
Oui, j'aimerais bien pouvoir un peu plus les aider.
Ah ouais?
Grandir un peu plus vite. Pour qu'ils se reposent après.
Parce que tu trouves qu'ils se reposent pas beaucoup?
Non. Les matins, ils se réveillent à 6 heures. Ils se couchent à minuit.
Et tes parents, ils se reposent le week-end?
Non. Ils ont d'autres trucs à faire.
Bah, ils se reposent quand alors?
Un peu la nuit. C'est tout.
Vivement que tu grandisses alors.
Oui. C'est tout ce que j'attends. Bon, ça, c'est des orties sèches. Ouais. Sinon, je peux t'en montrer des... vivantes.
Alors, toi, tu sais cueillir les orties sans te piquer, toi?
Oui, des fois, ça me pique. Parce que je les prends sur le petit, là, machin, la branche.
D'accord. Et toi, t'aimes bien tes chèvres, ici, en fait?
Oui, j'en ai deux. Sauf que j'en ai une qu'elle s'est fait opérer la patte parce que la blanche, elle s'appelle Blanchette. Et ben, elle a une patte d'enlever parce que un jour elle pouvait plus se lever. Elle était couchée dans un parc des veaux. Après, je me rappelle plus trop. On l'a emmenée au vétérinaire quand on y a vu. Et il a dit soit on la tue, soit on lui coupe une patte. Il valait mieux lui couper une patte.
Et toi, pourquoi tu les aimes, tes chèvres? Tu joues avec?
Non, je joue pas avec parce qu'elles sont sauvages un peu. C'est quelqu'un qui nous les avait données.
On va voir tes parents?
Sinon, tu sais ce que c'est?
Non, qu'est-ce que c'est cette feuille?
Hier. Ça grimpe aux arbres, ça les fait mourir. Ça, ça a des épines. Faut pas trop y toucher, ça s'appelle des ronces. Ça pique, hein. Les épines que ça a. Je vais montrer toutes les plantes. Je vais montrer les ronces, tout. Bon, j'ai pas peur, mais c'est pas la gratuite puisque j'en ai pas. Dommage.
Bernadette et Patrice, comme tous les éleveurs laitiers, ont vu en un an, entre 2008 et 2009, leurs revenus s'effondrer de 54%. La baisse régulière des prix du lait, la baisse des subventions, la fin du système de fixation des prix, la libéralisation des quotas laitiers, la concurrence des produits étrangers et l'augmentation des charges en aliments, en carburant et en engrais font que aujourd'hui, la vente du lait ne couvre plus les coûts de production. Aujourd'hui, ce sont les coopératives, c'est-à-dire les transformateurs, et les industriels, c'est-à-dire les revendeurs, qui imposent leurs tarifs en fonction des fluctuations du marché mondial. Les producteurs de lait subissent de plein fouet les fluctuations du marché mondial. Bernadette et Patrice ne sont pas un cas isolé. Beaucoup de producteurs laitiers comme eux ne touchent plus de salaire pour produire leur lait. Et c'est pour protester contre ces prix trop bas qu'ils se sont mis en grève en septembre dernier et qu'ils ont déversé des milliers de litres de lait comme ça dans les champs et dans les rues.
De toute façon, nous, on n'a pas pu le faire. Jeter le lait, nous, on ne pouvait pas. C'est de la trésorerie en moins.
C'est vrai que autant le donner que de le jeter.
Alors vous me dites, ils ont fait ça pour que tout le monde se rende compte de ce qui se passe. Est-ce que vous avez l'impression que les agriculteurs ne sont isolés et sont pas, que le reste de la France n'est pas très conscient des difficultés des paysans?
Je pense, oui. Et ils sont surtout, il y a surtout un problème au niveau des prix. Parce que les gens ne se rendent pas compte du prix qui nous est payé à nous quand ils l'achètent au supermarché. Parce qu'il est triplé, voire quadruplé. Donc c'est difficile de comprendre que nous, à la base, on nous le paye si peu, quoi.
Vous vous êtes payé combien pour un litre de lait, par exemple?
27 centimes.
Et il vous coûte combien à fabriquer?
Et il faudrait 30 centimes.
Minimum.
Pour pouvoir payer seulement les charges d'exploitation. Sans parler de nous sortir un salaire.
Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes reconnu pour le travail que vous fournissez tous les jours?
Non, je pense pas. Non, malheureusement, je pense pas. Non.
Travailler pour rien, ça devient démoralisant.
Oui, c'est sûr. Et d'autant plus que, bon, si il y a plus d'agriculteurs, et on ne sera pas les seuls à disparaître. Ça va engendrer beaucoup de personnes derrière nous. C'est quand même un gros problème. Et nous, on demande juste une chose, à pouvoir vivre de notre travail.
Pourquoi, à votre avis, on ne vous écoute pas?
Je ne sais pas. On a écouté les banques, on n'écoute pas les agriculteurs. On ne doit pas être assez important.
À mon avis, il y a une très mauvaise communication. Et l'agriculture, actuellement, pour beaucoup de citadins ou de gens qui connaissent pas beaucoup l'agriculture, ils entendent quand même parler que les agriculteurs, que l'aide, les primes européennes qui tombent dans les poches des agriculteurs, oh là là, mais c'est énorme. Alors là, il faudra effectivement, il y a une mauvaise communication, parce que effectivement, certains agriculteurs bénéficient de primes très très importantes, ça c'est vrai, mais pour ça, il faut être très gros, exploiter beaucoup d'hectares, et avoir beaucoup d'animaux, un truc comme ça. Sauf que les petites et moyennes exploitations, justement ceux que l'on trouve beaucoup en Creuse notamment, ne bénéficient pas du tout de ça. Ils ont des, et les primes qu'ils perçoivent, et ça il faudrait l'expliquer aux gens, c'est en compensation de prix qui ne cessent de baisser. Ce serait scandaleux si effectivement les prix étaient corrects et qu'en plus on donnait des primes aux agriculteurs pour qu'ils restent sur place. Mais là c'est pas le cas. Les primes n'augmentent pas actuellement et les prix baissent tout le temps. Il y a surtout une injustice entre les paysans, entre les possédants, je dirais, c'est-à-dire entre ceux qui ont des grosses exploitations, même si quelquefois ils se plaignent, mais enfin, faut pas non plus croire tout le monde, et puis des exploitations, comme en Creuse, qui sont indispensables à la survie du département, parce que l'économie du département de la Creuse, à part l'agriculture, vous enlevez l'agriculture, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien, il y a très peu d'industrie, il y a de l'artisanat, mais bon, un peu d'artisanat et de commerce. Et l'artisanat et le commerce tiennent parce qu'il y a des agriculteurs. Vous enlevez les agriculteurs, d'ailleurs dans une commune, vous enlevez des agriculteurs, et puis ben, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de poste, il n'y a plus rien, les services publics déménagent aussi. Donc, il est vrai, ce que disait Bernadette tout à l'heure, ben oui, s'il n'y a plus d'agriculteurs, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Et si on enlève l'agriculture, et on est en train de le faire, mais d'une manière très sournoise, c'est-à-dire on ne permet pas aux agriculteurs, même ceux qui ne sont pas en difficulté, mais on ne leur permet pas de vivre décemment de leur boulot, de leur travail. Donc bon, je sais pas, effectivement, on parlait du plan Sarkozy tout à l'heure, ça c'est de la poudre aux yeux, c'est des effets d'annonce qui ne changeront rien au niveau de la Creuse. La preuve, on en a l'exemple, ça ne change rien du tout. Il faut s'intéresser à l'agriculture. On est actuellement, c'est le gouvernement actuel, celui qui le moins s'occupe des agriculteurs. Enfin, s'occupe de l'agriculture, pas des agriculteurs, mais de l'agriculture. Il semblerait que l'agriculture au niveau de la France, ce ne soit pas une économie importante, alors que c'est quand même une économie importante.
vous avez choisi une reconversion en bio. Mmh. Ça fait combien de temps que c'est en cours, ça? Est-ce que c'est difficile à mettre en place?
Non, parce que nous, on l'était déjà pratiquement en bio, donc ça n'a pas été très dur.
Et est-ce que ça a un coût particulier là, qui se rajoute ou pas?
Si, j'ai un coût par rapport aux aliments. Ouais.
Qui sont de meilleure qualité, donc qui sont plus chers.
Qui coûtent beaucoup plus cher. Ouais.
Alors pourquoi vous avez opté pour une reconversion en bio du coup?
Ben c'était pour avoir la reconnaissance de ce qu'on faisait pratiquement, ouais. Voilà, on le faisait pratiquement et donc on a dit autant intégrer la filière quoi carrément.
Oui, donc alors ce qu'il faut se dire c'est que peut-être à force de petites de petits allongements d'aide par-ci par-là.
C'est nos projets, il faudrait qu'ils aboutissent.
Réussir à y arriver quoi.
Hein? Ce serait d'arriver à aboutir.
Ben oui. Parce que dans un premier temps, malheureusement, perspective à venir, comme tu parlais tout à l'heure, quoi, évidemment, c'est un peu bouché, quoi. On est dans le tunnel et on ne voit pas la sortie, quoi. Bon. Mais faut garder espoir quand même, parce que bon, s'il y a justement cette reconnaissance, disons, d'une autre agriculture, parce qu'en fait, c'est ça quand même. Hein.
Oui.
C'est reconnaître que il n'y a pas que l'agriculture productiviste qui est une autre chose,
l'agriculture. Moi, je dis celui qui s'en sortira, c'est celui qui transformera.
Qui va transformer.
Ah, mais ça, alors là, on est complètement d'accord. Hein.
Ouais. Je crois que l'avenir, c'est ça. Hein.
Oui.
Plutôt
que de transformer, c'est-à-dire de...
Par exemple, nous, l'objectif, c'est vouloir faire du beurre, de la crème,
des yaourts. Les vendre directement aux consommateurs.
Ouais. Ouais. Éventuellement du lait frais aussi.
Exactement. Voilà, ce qu'on voulait commencer, c'est vendre du lait direct. Mais il n'a pas su répondre hier. Là,
il n'était pas hier. Oui, c'est possible. Si. On a le droit de vendre du lait
chaud, frais,
ce qu'ils appellent, dans les 2 heures qui suivent la traite.
Ah oui. Donc voilà. Tu ferais du porte-à-porte, comme en Angleterre.
Il avait fait sur commande, elle le faisait.
Oui.
Donc après, t'as pas de perte, quoi.
Ah oui, oui.
Le faire sur commande. Hein. Mmh. C'est-à-dire qu'avant de lancer l'activité, passer des petits papiers dans les boîtes aux lettres, en mettant tel jour, on sera sur tel lieu, donc passez vos commandes, et on ira livrer les gens directement chez eux.
Donc tu vois bien, Patrice, qu'il y a des possibilités de s'en sortir.
Il y a des moments.
Moi, je lui ai toujours dit à Patrice, mais au départ, il voulait pas me croire. Je lui ai toujours dit, tu sais, on s'en sortira que si on transforme.
C'est vrai, t'as raison.
Alors là, toutes les vaches qui sont ici, c'est des vaches qui naissent ici.
Ah oui. Nous, toute femelle qui naît, donc la maman fait la vache fait une femelle, on l'élève. En race, tout ce qui est en race pure, quoi.
Et vous savez accoucher des vaches
Bien sûr, il le faut bien, hein, oui.
C'est vous qui le faites?
Oui. On ne fait pas appel au vétérinaire pour ça. Hein. On n'a pas de difficulté. Hein. En élevage laitier, les vaches, elles veulent relativement bien, quoi. Sinon, non, on intervient quand il y a besoin.
Donc en fait, vous les voyez naître et puis après, c'est vous qui les accompagnez vers la mort, à l'abattoir, etc.
Ah, oui. Quoi. On fait de la chaîne, oui.
C'est ça.
Ouais.
Donc, du coup, éventuellement aussi, l'idée d'arrêter l'activité, c'est aussi l'idée de se séparer des bêtes, en fait.
Ben oui, c'est ça le pire de tout, hein. Se séparer de nos animaux, quoi.
On a fait le tour en fait du bâtiment, c'est ça?
Voilà. Ok. Les toutes petites, vous voulez les voir, les toutes petites? Les bébés, comme je les appelle.
Elles sont nées depuis combien de temps, celles-là?
Les plus jeunes ont un mois et demi. Viens, mon bébé, viens. Viens, mon bébé. Bazar.
50% des agriculteurs français sont menacés de disparition dans les 2 à 3 années à venir. Merci à Bernadette et à Patrice d'avoir accepté de parler. Merci aussi à Gilles Roy d'avoir accompagné Delphine Gourlet pendant ce reportage. Merci aussi à l'association Solidarité Paysan. La semaine prochaine, on sera encore dans la Creuse avec d'autres agriculteurs en difficulté. Merci à Delphine Gourlet pour ce reportage. Sur Internet, franceinter.com, site nous autres, vous trouverez les coordonnées de l'Association Nationale Solidarité Paysan. Sur Internet, vous le savez, on vous le répète souvent, vous pouvez aussi nous réécouter, nous podcaster et nous écrire toujours et encore. À la semaine prochaine.